Le poids de la nuit. Les rires francs des pêcheurs faisaient vibrer les planches décrépites de la brie et couvraient le grondement du tonnerre. À travers la petite fenêtre martelée par la pluie, on discernait ça et là les autres cabanons sur pilotis, illuminés par le phare de la côte. Des boîtes en bois émergeant tour à tour du noir d'encre. Un trou dans le toit laissait entrer de l'eau, qui tombait à grosses gouttes dans un seau en battant la mesure. Il n'y avait qu'une seule et unique pièce, avec une table en bois au milieu, des chaises et un poêle à l'ancienne d'où émanait une chaleur bienveillante. La cabane était vieille, leur amitié aussi. Les trois compères étaient assis, discutaient des ragots des alentours, un verre à la main. Des terrains à vendre, des coucheries, des tromperies, sans oublier les brouilles entre familles. Jacques raconta une centième fois sa fameuse anecdote où il avait surpris le boucher bronzé entièrement nu dans une crique déserte. « On la connaît déjà, celle-là, » dit Yves. Hilarité générale. Ses quarantenaires en avaient des histoires à raconter. Parfois trop, jusqu'à l'exaspération. La femme de Denis en avait eu marre et était partie en lui reprochant de vivre dans le passé, de ne rien construire de neuf. Il était bientôt 21h, toujours aucune nouvelle de Gilles. Après plusieurs appels, il n'avait pas décroché son téléphone. Problème, c'est lui qui devait ramener les jetons pour la partie de poker. C'est au moment même où les trois gaillards décidèrent de commencer un autre jeu que quelqu'un frappa dehors. La porte s'ouvrit, et Gilles apparut, vêtu d'un ciré luisant, un pack de bière sous un bras, une petite mallette sous l'autre. Derrière lui tombaient des trompes d'eau. Il fut accueilli par un grand soupir de soulagement de la part de ses amis. « Salut les gars, c'est ici la soirée poker ?» demanda en jouet le nouvel arrivant. « J'ai ramené des munitions !» Après des accolades de circonstances, les vieux amis se mirent autour de la table. Tout en distribuant jetons et cartes, Gilles expliqua avec exaspération qu'il avait dû rouler au pas à cause de l'orage. De plus, la pluie n'avait pas épargné son jean. Entre le parking et la cabane, la promenade était courte, mais cela avait suffi pour transformer son pantalon en une vieille serpillière. Hésitant, Gilles finit par se lever et se mit en caleçon sous les sifflets de ses amis. Il rapprocha ses jambes nues du poêle, alluma une cigarette et en proposa aux autres. Jacques refusa prétextant qu'il avait arrêté, même en soirée, mais Yves accepta avec entrain. Le temps dehors était tout sauf clément, mais cette cabane leur offrait un peu de liberté. Pas de réflexion sur les odeurs de tabac froid, ni d'enfants dans les pattes. Et puis ça me rappelle quand on faisait du camping en été, intervint Jacques. Ouais, enfin on avait des tentes qui étaient plus étanches que ta vieille bicoque, plaisanta Denis, en poussant du pied le seau rempli à moitié. Les quatre amis rirent de bon cœur, leur complicité se faisait sentir, puis le silence retomba calmement. On n'entendait plus que l'orage. Une gêne se fit cependant de plus en plus perceptible, plana au-dessus du groupe. L'endroit avait beau être un havre de paix, loin des responsabilités parentales, il en demeurait un lieu chargé. Sur les photos au mur, on pouvait suivre les aventures de la petite bande dans des décors différents, comme un album constamment ouvert. L'une les montrait cuisinant un barbecue, une autre naviguant en canoë ou en train de monter une tente. Tous les cinq affichaient la même joie sur leur visage, une franche camaraderie que le temps et les rides ne ternissaient pas. Christophe y apparaissait toujours les poings sur les hanches, regardant faussement l'horizon comme un Superman sans cap. Un peu à l'écart se trouvait une photo plus récente. La chaleur d'antan avait disparu. Restaient des ersatz de sourires, jaunis et écornés. Christophe avait été emporté par un cancer fulgurant. 3 jours après l'enterrement, le reste de la bande s'était réuni pour un dernier hommage sous un ciel aussi lourd que le cœur de Gilles. Il tenait un bouquet de fleurs où l'on pouvait lire « À mon frère ». Sur l'image, aucun des quatre amis ne regardait l'objectif, sans doute par pudeur. « Désolé, Gilles, j'aurais peut-être dû enlever ces photos, » dit Jacques. « Non, non, t'en fais pas, » répondit Gilles. « Elles sont bien ici. Les souvenirs ne sont plus aussi douloureux. Tu sais, je suis même revenu à côté voir sa cabane la semaine dernière. Ma belle-sœur m'a demandé d'aller récupérer quelques trucs, mais mon frère a mis un gros cadenas dessus et c'était le seul à connaître le code. » On va devoir le casser pour ouvrir. » Tous se tournèrent vers le mur d'images et levèrent leur bouteille de bière. À Christophe. Le début de la partie relança mollement les quatre amis. Ils reprirent leur conversation de commérage, Dehors, le tonnerre et la pluie s'amplifiaient. La lumière du phare perçait difficilement le voile d'eau. Sans crier gare, la discussion déboucha sur la disparition de la fille Moreau. La jeune femme était introuvable depuis 2 semaines. La réputation de la famille n'avait pas aidé à créer l'empathie chez les gens du coin. Un fait divers de plus. La bande débattait de ses potentielles mauvaises fréquentations quand, soudain, un énorme bruit sourd se fit entendre dehors. Les 4 amis se dévisagèrent sans savoir comment réagir. Puis Gilles se leva, enfila tant bien que mal son pantalon, prit son ciré et s'élança à l'extérieur. « Ça venait du parking, non ?» demanda Denis. Les 3 compères suivirent Gilles dans cette noirceur insondable. Le petit groupe prit le chemin qui menait aux voitures. Ils connaissaient bien l'endroit, en temps normal ils s'y déplaçaient de nuit sans aucune lumière. Mais ce soir-là, tous sortirent leur téléphone portable pour éclairer leurs pas dans ce paysage lacéré par l'orage. Pour accéder au parking, il fallait remonter un sentier qui partait de la côte sur 250 mètres, puis passer dans une petite forêt sur la même distance. Après le bois, il y avait normalement un petit pont au-dessus d'un court bras de mer qui permettait d'accéder aux voitures. Mais c'était déjà de l'histoire ancienne. Un gigantesque éboulement avait avalé une partie des arbres et la totalité de la passerelle. Le sentier s'arrêtait net pour plonger dans un gouffre obscur, un paysage de pur chaos. Yves arriva en dernier et faillit y tomber en glissant dans la boue. On le rattrapa de justesse. La distance qui les séparait des voitures était maintenant infranchissable. La bande essayait tant bien que mal de communiquer, mais le maelstrom de pluie et de vent couvrait leurs cris. Jacques se pencha pour voir la profondeur du gouffre qui venait de naître. Sous son pied, une fissure apparut, grandit, s'élargit. Le glissement de terrain grignota encore un peu le sentier, entraînant un arbre dans les profondeurs avec un fracas sec. Le vrombissement du tonnerre faisait vibrer le sol meuble. L'eau tombait en uppercut sur les feuillages. Apeurés et confus, les 4 amis retournèrent vers la côte. Dans la cabane, le seau ne suffisait plus. Il commençait à déborder. Reprendre son souffle était difficile. L'endroit semblait de plus en plus petit maintenant. Sur les portables, pas de réseau. Chacun y allait de son plan pour se sortir de cette situation. Passer par la plage ? Mauvaise idée. Avec cette purée de poids, descendre la petite falaise sans se briser la nuque révélait l'exploit. De plus, une fois sur le rivage, les vagues les avaleraient à coup sûr comme c'était déjà arrivé par le passé, les jours d'orage. Et celui-ci semblait n'en plus finir. Ils étaient bloqués ici tous les 4 pour la nuit. Denis commença à faire les 100 pas dans le petit abri, marmonnant un flot continu d'insultes. Les autres lui demandèrent de se calmer et de s'asseoir, mais il n'écoutait pas. Yves se leva d'un bond, visiblement irrité par le comportement de son ami, puis accusa Jacques d'avoir insisté pour faire la partie ici. « Tu insinues que c'est de ma faute ?» demanda ce dernier d'un ton sec. Il leva petit à petit sa voix tout en exigeant des excuses, la bulle d'énervement enflait de plus en plus. Les reproches étaient incisifs, devinrent des accusations. Tout en fixant l'extérieur, Gilles essayait d'interpeller le reste du groupe, mais ils étaient trop occupés à se crier dessus.
« Waouh, stop !»
Les cris retombèrent. Gilles indiqua d'une main fébrile la fenêtre. Dehors, les éclairs déchiraient toujours le ciel, rayaient la côte dans d'immenses flashs blancs. Jacques, Denis et Yves s'approchèrent. Derrière les trombes d'eau qui s'abattaient sur la vitre, ils distinguèrent avec stupeur de la lumière. Celle-ci venait de la cabane voisine, celle de Christophe. « Il doit y avoir quelqu'un, la personne va pouvoir nous aider, c'est bon, on va pouvoir rentrer chez nous, » bredouilla Jacques. Les autres le dévisagèrent sans voix. Qui pouvait bien être cette personne qui venait de débarquer de nulle part sous cette tempête infernale, et surtout, surtout, comment connaissait-elle le code du cadenas ? Le silence devint pesant. Jacques comprit le caractère étrange de la situation, son visage se décomposa pour se figer dans la même expression que les autres. « On devrait aller voir, non ?» demanda Gilles. La boue transformait le sentier en vraie patinoire. Éclairé par les téléphones, le petit groupe avançait en rang bien ordonné. La possibilité de tomber sur un intrus par cette nuit de tempête affûtait les sens des 4 amis. Devant la cabane de Christophe, l'appréhension se mêlait aux souvenirs. La porte était ouverte, la lumière toujours allumée. On distinguait clairement le cadenas, ouvert, intact. Personne ne l'avait forcé. Gilles cria « Y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Ils avancèrent encore un peu. À l'intérieur, rien n'avait bougé. Le décor était tel qu'ils s'en souvenaient. Les cannes à pêche, le kayak gonflable, l'exaspérante truite chantante que Christophe avait eue pour son 40e anniversaire. Tout était à la même place. Sur le pas de la porte, les quatre amis tournaient en rond, hébétés, en faisant grincer le plancher. Personne n'osait réellement rentrer. Gilles, les yeux humides, éteignit la lumière et ferma derrière lui. Quand il se retourna, quelque chose avait changé. Les autres regardaient le ciel, les yeux exorbités, et ne comprirent pas tout de suite que la tempête était finie, que la pluie et le tonnerre avaient cessé. Le silence n'était pas aussi frappant que la lumière au-dessus de leur tête. Car en levant les yeux, Gilles aperçut une immense aurore boréale qui ondulait doucement. Le phénomène était extrêmement rare en France. Le groupe observait avec attention ce spectacle grandiose, oubliant presque la tempête dantesque qui sévissait encore quelques minutes avant. Des émotions contradictoires bouillonnaient en eux. À leurs pieds s'élevait un mince filet de brume. Un bruit les fit revenir au réel. Comme un ululement de chouette, mais plus aigu, qu'ils ne reconnurent pas. Le cri retentit une deuxième fois, plus long. Il venait de la lisière de la forêt. Le ciel illuminait la côte d'une faible lueur pâle. Leurs yeux scrutèrent longuement les arbres avant de la voir. Quelque chose était là, devant eux. Une forme dont émanait une aura de néon flottait, immobile. Elle était habillée d'un long tissu déchiré d'un noir d'encre. Au-dessus trônait ce qui s'apparentait à une tête, ou plutôt un crâne, sans mâchoire, surmonté de deux cornes en forme de S. La créature était dépourvue de bras et de jambes. Terrifié, le petit groupe se resserra. Leur souffle était court, mais personne n'osait crier. Soudain, ils virent d'autres silhouettes sortir de la forêt. Une, puis deux, puis cinq. Elles étaient bientôt une vingtaine. Des formes humaines cette fois. La horde avançait doucement. Les premiers se rapprochaient des quatre amis sans un bruit. Yves leur cria de ne pas avancer plus près. Puis leva son téléphone et éclaira les inconnus qui se trouvaient maintenant à deux pas. Tous reconnurent Madame Lucine, morte en un accident de voiture. Et Monsieur Gaume, mort d'une crise cardiaque, et Monsieur Lascaret, mort d'un cancer, tous étaient décédés dans l'année. Ils passèrent sans remarquer le petit groupe d'amis, en se dirigeant droit vers la falaise. L'odeur de leur peau en décomposition donna la nausée à Jacques. Les deux autres sortirent également leur téléphone pour éclairer le reste des cadavres. Personne ne prêtait attention aux vivants. Gilles reconnut dans la foule une démarche qu'il connaissait bien. Il s'avança et interpella la silhouette. « Christophe, hé, attends !» Ce dernier s'arrêta, se tourna lentement et dit d'une voix molle
« Oh, salut Gilles, tu es venu me narguer, c'est ça ? Même vivre, tu le fais mieux que moi. »
Avant de reprendre sa marche. Son frère le suivit en lui posant tout un tas de questions, des sanglots dans la voix. À l'arrière, la créature restait immobile, hurla une dernière fois. Un long cri rauque retentit et une bande de lumière aveuglante s'éleva au niveau de la falaise, avalant les morts qui s'y rendaient d'un pas déterminé. Le reste du groupe était resté en retrait. Il ne bougeait plus, cherchait Gilles du regard, mais le vif éclat les empêchait de retrouver sa trace. Yves interpella les autres. Une silhouette, plus petite, marchait vers eux. « Les gars, regardez, je crois que c'est la fille Moreau. »
Le cadavre de la jeune femme se figea.
Ses vêtements étaient déchirés, pleins de boue et tranchés avec les vêtements propres des autres morts. Elle se retourna et ouvrit grand les yeux quand elle vit les trois hommes. Son pas se fit plus rapide, puis elle s'élança et bondit sur Denis. Les deux chutèrent au sol. Elle le tenait fermement au col. L'homme commença à hurler, à pleurer comme un enfant. « Arrête, Élise, arrête, s'il te plaît !» Sur le cou du cadavre, la peau avait été rendue bleue par des traces de mains encore visibles. « Pourquoi tu m'as fait ça, Denis ? Hein ? Pourquoi ? Sous elle, l'homme se débattait mais n'arrivait pas à se dégager. La jeune femme lui griffa alors le visage et enfonça ses doigts blancs et froids profondément dans la gorge de Denis.
On vivait une belle histoire tous les deux, pourtant.
Elle se releva et prit l'homme par le pied pour le traîner dans la boue jusqu'à la falaise. Yves était tétanisé, la scène l'avait pétrifié, des larmes coulaient sur ses joues sans un bruit. Jacques, lui, s'était retrouvé à genoux, le corps contorsionné par de grands spasmes, à vomir par grands jets. Tous les morts passèrent dans la lumière, la créature hurla une dernière fois, et tout s'éteignit. Dans le ciel, les nuages électriques grondaient au loin. L'orage était passé. Le lendemain, les autorités constatèrent le glissement de terrain qui avait englouti le pont et une partie de la forêt. Sur le parking, les voitures du groupe d'amis étaient encore là. Quand les secours traversèrent l'éboulement, ils inspectèrent chaque cabane. Seulement deux étaient ouvertes. Dans la première, ils ne trouvèrent personne, mais dans la seconde, Jacques et Yves dormaient, proches de l'épuisement et dans un état de choc. On retrouva Gilles, délirant, en train de marcher sur la plage en contrebas. Les autorités supposèrent que Denis était tombé dans la mer déchaînée. Aucun des trois survivants ne se rappelait ce qu'il s'était passé cette nuit-là.